Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici repartis pour un autre rendez-vous de notre débat hebdomadaire Patara sur Radio Ndekeloka. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'offensive diplomatique de la présidence centrafricaine auprès de Moscou qui fait couler tant d'encre au plan national qu'international. En effet, depuis 8 mois, la Centrafrique et la Russie se sont engagées dans une coopération d'abord militaire puis politique et désormais économique. En marge du Forum international économique de Saint-Pétersbourg, les présidents Vladimir Poutine et Faustin Archange Touadéra se sont engagés à intensifier les relations entre leurs deux pays. À ce sujet, le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, tout en remerciant la Russie pour l'aide militaire apportée à la RCA, a indiqué saisir cette occasion pour renforcer la coopération avec la Russie dans différents domaines. Cependant, selon certains médias occidentaux, bien que le sujet soit tabou à Bangui, les Russes n'ont jamais caché leurs intérêts pour le sous-sol centrafricain. Il n'en a été question dès la rencontre Lavrov Touadéra à Sochi en octobre. Des émissaires russes sont même allés rencontrer les chefs de plusieurs groupes armés du Nord et de l'Est pour essayer d'en discuter, apparemment sans succès. Pour appuyer leur engagement, les Russes jouent la carte humanitaire, notamment à travers la distribution de vivres au PK5 fin avril ou l'envoi du Soudan d'un convoi transportant des hôpitaux en kits à destination du Nord de la République centrafricaine. Toutefois, plusieurs médias en ligne ont fait état de ce que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en tournée africaine depuis jeudi au Congo, Tchad et Addis, n'apprécie pas en revanche l'évolution de la situation en Centrafrique, surtout avec l'arrivée d'une mission militaire russe. J'ai évoqué cette question avec le ministre Lavrov lorsque je l'ai vu à Saint-Pétersbourg. Nous sommes tout à fait déterminés à ce que les engagements constitutionnels, électoraux et militaires qui ont présidé à l'arrivée du président Touadéra puissent être respectés sans l'ingérence d'acteurs étrangers. Fin de citation, a martelé Le Drian. Toutefois, il y a de cela un mois, un premier contingent des FACA formé par la Russie a été présenté aux autorités centrafricaines à Birungo, site qui abrite la base des soldats russes en Centrafrique. Question, ce rapprochement diplomatique Bangui-Moscou est-il une opportunité ou plutôt une sorte de nouveaux ennuis pour la République centrafricaine? Y a-t-il un risque que cela puisse refroidir les partenaires traditionnels de ce pays qui verraient peut-être leurs intérêts inquiétés? Pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui autour de la table M. Martin Zigele, président du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC, député de la Nation, ancien Premier ministre, personnalité politique. Monsieur Martin Zigele, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs et auditrices.
Monsieur Cyril Gonda, président du Parti national pour un Centrafrique nouveau, PNCN, ancien fonctionnaire des Nations Unies, ancien ministre d'État, personnalité politique également. Monsieur Cyril Gonda, bonjour.
Bonjour.
Et monsieur Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile. Monsieur Gervais Lakosso, bonjour.
Bonjour.
Herman Ambona est notre technicien du jour. Je suis Hippolyte Marois à l'animation de ce débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Première question à vous, président Martin Zigele. Bangui et Moscou ont officiellement matérialisé leur coopération militaire, politique et économique. Que vous inspire un tel rapprochement?
Je vous remercie. Le sujet est effectivement d'actualité. Beaucoup de commentaires, d'écrits dans la presse, d'articles sur Internet, etc. Mais je voudrais quand même rappeler que la coopération entre la République centrafricaine et ce qui était l'Union soviétique a commencé de notre indépendance en 1960. Nous sommes allés aux Nations Unies en 1960 pour la reconnaissance de la RCA avec le soutien de l'Union soviétique qui est devenue la Russie et qui, depuis 1945, est membre du Conseil permanent. Déjà dans la Société des Nations, puis aux Nations Unies sont devenus membres permanents. Mm-hmm. Donc la Russie n'a pas opposé de veto et c'est comme ça que la République centrafricaine a pu être reconnue indépendante sur le plan international. Donc la coopération avec la Russie date de 1960 sous le président Dacko. Cette coopération a beaucoup évolué sous le président Bokassa, parce qu'il y a beaucoup de cadres centrafricains qui ont été formés dans tous les domaines en Russie. Cette coopération s'est ralentie un peu à partir des années 80, mais ce n'est pas un élément complètement nouveau dans le paysage diplomatique et politique de notre pays.
On peut juste raisonner en termes de réchauffement de ces relations-là qui existaient.
Je préfère plutôt le terme densification, de réchauffement que d'établissement de relations parce qu'elles existent depuis.
Et sur tous ces domaines-là, y compris le domaine militaire ?
Le domaine militaire a pris un volet, on reviendra là-dessus, tout à fait important parce que les soldats formés par l'EUTM, dans le cadre de leur équipement militaire, le pays a sollicité un certain nombre de partenaires. La Russie a répondu présent. L'affaire a été débattue au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et là encore, les cinq membres permanents n'ont pas opposé de droit de veto pour que ces militaires centrafricains formés par l'Union européenne, l'EUTM, soient équipés.
Merci.
Voilà ce que j'en sais.
Merci, Président Martin Zigele. Président Cyril Gonda, aujourd'hui, une coopération réchauffée à trois dimensions, militaire, politique et économique. Qu'est-ce que cela représente pour vous?
Non, moi je pense que la République centrafricaine sort d'une crise que nous tous nous connaissons, une crise assez grave, hein, qui a ébranlé les bases politiques, économiques et sécuritaire de notre pays. Et il est connu de tous, hein, même nos partenaires traditionnels savent que la coopération, le genre de diplomatie que la République centrafricaine devrait avoir, c'est la main ouverte à presque tout le monde qui voudrait bien l'aider. Et une coopération économique, politique et militaire avec la Russie n'est qu'une relance de quelque chose qui a existé depuis que le président Zigele appelait la densification. Maintenant, il faut relire l'histoire et savoir que même nous autres, quand nous étions encore au lycée, nos professeurs de mathématiques étaient des Russes. Nos professeurs de mathématiques étaient des Russes. Donc, en tant que politique, ce rapprochement, pourvu que ça soit dans l'intérêt du peuple, pourvu que ça soit fait dans la transparence, pourvu que derrière les intentions des partis, c'est le peuple qui est, si vous le sentez,
ça ne peut que
me réjouir.
Vous suspectez quelque chose?
Non, je ne suspecte rien. Vous savez, le président Zigele venait de le dire, il y a eu une presse intense sur la question, il y a eu des agitations, des déclarations, il y a eu même des actions, comme le voyage de Le Drian. Donc ça, c'est des choses assez importantes qu'il faut dire. Est-ce que quelqu'un suspecte quelqu'un? Je ne pense pas, mais moi en tant que politique, je pense que c'est la relance d'une coopération qui à un certain moment était mise au point mort. Et on a simplement réveillé quelque chose qui a été positif pour le peuple centrafricain, c'est-à-dire la Russie depuis 1960 avec la RCA, une densification qui existait déjà sous l'empereur, la formation des cadres centrafricains. Aujourd'hui, nous avons même des enfants centrafricano-russes qui sont là. Donc, vous comprenez, ce n'est pas nouveau.
Voilà. Merci, M. Cyril Gonda, M. Gervais Lacousseau. Aujourd'hui, on sent cette présence-là déjà de manière effective sur plusieurs domaines. Le chef de l'État lui-même l'a rappelé lors de sa rencontre avec le président russe, Vladimir Poutine. Cette relation ou alors ce réchauffement de coopération est-il le bienvenu selon vous? Ou bien ça laisse quand même une marge d'inquiétude vu tout le tapage médiatique qui se fait autour de cette situation?
Mais on ne peut pas dire que cette coopération est le malvenu, il est le bienvenu. Comme mes prédécesseurs l'ont dit, un pays qui est en crise, et même si le pays n'est pas en crise, un pays ne peut pas évoluer en vase clos. Le pays devait s'ouvrir aux autres, devait s'ouvrir à la coopération multiforme pour se développer, puisque nous sommes dans une ère de mondialisation où un pays ne peut pas fonctionner tout seul. Mais maintenant, c'est ce qu'on fait de cette coopération qui est importante, que ce soit avec la Russie, avec quelques pays, que ce soit concernant la coopération avec la Russie particulièrement. Moi, je ne trouve rien d'extraordinaire dans la coopération avec la Russie, puisque nous sommes en coopération avec plusieurs pays déjà et depuis très longtemps, et on ne voit pas ce que cela nous apporte. Alors, au lieu de se réjouir, au lieu de prendre les Russes comme les sauveurs de la République centrafricaine, il faut se poser la question comment on peut tirer profit de cette coopération avec la Russie. Parce que avant et après tout, c'est comment nous gérons notre relation avec tous nos partenaires que nous pouvons faire de ces relations quelque chose d'avantageux ou quelque chose de négatif pour nous.
Justement, je rebondis sur votre intervention pour poser la question suivante au président Martin Zigele, ici présent. Est-ce qu'il y a mieux à attendre de cette coopération avec la Russie, ou plutôt le pire, autrement dit, quels seraient les enjeux d'une telle coopération?
Oui, je voudrais répondre d'abord par une clarification que je crois nécessaire. je me pose toujours la question de savoir, est-ce que c'est un problème de communication ou c'est un problème de clarification de la démarche? Mais je crois savoir qu'il y a quelques mois, 6 mois, 1 an, j'ai entendu un général de l'EUTM dire qu'il faut que le gouvernement centrafricain trouve une solution à l'armement des FACA parce qu'ils ne peuvent pas former des bataillons et que ces bataillons ne soient pas formés. Et c'est là où je parle du problème de communication ou d'information. Le gouvernement centrafricain, je crois, avait sollicité une société française pour armer les bataillons formés. Et elle n'a jamais reçu de retour, de réponse à la demande d'autorisation. Parce que vous savez que les armes, quand vous achetez des armes létales, c'est-à-dire des armes qui tuent dans un pays, il faut que le ministère de la Défense donne une autorisation d'exportation. Cette autorisation, les autorités centrafricaines qui l'ont sollicité ont attendu vainement. Elles voulaient acheter ces armes-là pour équiper ces FACA. Et c'est lorsque la réponse ne venait pas que...
Que
le gouvernement a rehaussé le niveau de l'intervention aux plus hautes autorités françaises. Et c'est dans ce cadre-là que le contact a été pris avec la Russie. Et je le répète encore une fois, cet accord-là est passé par les Nations Unies. Il y a eu une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies avec même des détails sur la manière dont les armes devraient être livrées à Bangui, surveillées par l'UNMAS, les Nations Unies, etc., etc. Donc, je pense que jusque-là, le processus a été, à mon avis, régulier. Mais ce que les uns et les autres ne disent pas, et je pense que c'est ça qu'il faut parler, on nous dit que concomitamment avec cet accord, il y aurait eu des accords portant sur des ressources naturelles, sur du diamant, sur de l'or, sur d'autres ressources rares, etc. C'est ce que les gens disent sous le maillet. Donc je dis, l'Assemblée nationale, selon les dispositions de l'article 60 de notre Constitution, est habilitée. Et cette habilitation a été confirmée par un arrêt de la Cour constitutionnelle pour donner son autorisation ou pas à toute convention minière ou portant sur les ressources naturelles ou les conventions financières avec les tiers, terres extérieures à notre pays. De deux choses l'une, si ceux qui s'inquiètent, n'est-ce pas, peut-être d'un respect éventuel de cette procédure, qu'ils nous produisent ces documents-là, qu'ils nous produisent ces conventions-là, qu'ils nous produisent ces accords-là, qui n'aurait pas été rendu public ou qui n'aurait pas suivi la voie régulière, et l'Assemblée nationale assumerait ses responsabilités. Donc on est dans une situation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a des soupçons que des accords ont été faits et qu'ils n'ont pas été avalisés par l'Assemblée. Et de l'autre côté, on ne nous donne pas ces accords-là. Donc ceux qui font circuler ces informations ne nous disent pas de quel accord il s'agit, où sont ces accords. Enfin, on parle de quelque chose que moi, député, je n'ai pas vu. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec le ministre d'État Goda. D'accord, la transparence c'est nécessaire, c'est fondamental, c'est la Constitution qui la demande. Mais quand vous plaignez d'une situation, apportez les éléments qui peuvent permettre de redresser la situation. Je pense qu'en l'occurrence, il y a la diplomatie qui fait ce travail, qui doit faire ce travail.
Justement, il y a beaucoup de remue-ménage quand même autour de cette question, autour de cette présence russe en Centrafrique. Je voudrais quand même savoir si le gouvernement, parce que là vous avez plusieurs étiquettes, vous êtes même président d'un parti politique et
député
en même temps, est-ce que jusque-là, notre Parlement a déjà reçu sur sa table peut-être un document qui atteste de l'officialisation de ces nouveaux contrats, encore de ces nouveaux engagements entre la République centrafricaine et l'État russe?
Non, je ne suis pas au bureau de l'Assemblée. L'autorisation est donnée par le bureau de l'Assemblée. Depuis mai 2016 que cette Assemblée est en place, elle a déjà examiné une dizaine de conventions. Il y a juste 10 jours, nous avons fait un séminaire avec la Banque mondiale, ici à Bangui, pour voir les processus de ces conventions minières-là. Et nous avons recommandé une nouvelle méthodologie pour l'examen, renforcer le dispositif, etc. Je sais, selon les informations que j'ai eues de mes autres collègues qui sont au bureau de l'Assemblée, parce que je ne suis pas au bureau de l'Assemblée, qu'il y a eu une convention sur une société dans le domaine du diamant et de l'or qui a été approuvée comme une dizaine d'autres conventions qui ont été approuvées avant. C'est tout. Mais on nous parle d'uranium, on nous parle de pétrole, on nous parle de ceci. Mais en tout cas, moi, je ne suis pas au courant de cette affaire. Et le bureau de l'Assemblée, mes collègues me disent que nous n'avons pas été saisis d'une convention de ce type. Et d'autres affirment que oui, cette convention existe. En ce moment-là, qu'elle le mette sur la place publique, qu'elle le saisisse l'Assemblée, et que si l'Assemblée ne fait pas son travail, on pourra en tirer les conclusions.
Merci, président Martin Ziguele. Président Sira Gonda, aujourd'hui nous parlons de l'offensive diplomatique. Peut-on dire que la présidence centrafricaine a marqué un coup?
Mais vous savez, j'écoutais une personnalité française il y a 2 jours, qui parlait plutôt d'une percée diplomatique, de la Russie vers l'Afrique et particulièrement dans le précaré français. Alors, est-ce que c'est une percée diplomatique de la RCA ou une percée diplomatique? C'est l'inverse. Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut comprendre les changements, les mutations dans le monde, comme Javier Lacosso le disait tout à l'heure. Dans le monde de globalisation, vous avez vu Benjamin Netanyahu. Il n'a pas hésité à commencer à faire ce qu'on n'avait jamais pensé. Il est parti même vouloir être membre de l'Union africaine en observateur. Donc c'est pour vous dire que les pays ne dorment plus, parce que le monde est devenu un petit village planétaire. À partir de ce moment, que ça soit une percée diplomatique de la Russie, comme les Américains disent « so be it », c'est-à-dire eux, ils cherchent à se positionner, à sauver les intérêts de leur peuple, quand ils voient ça sur 100 ans, 200 ans, que ça soit une percée diplomatique centrafricaine. Mais moi, je dis, en revenant à l'histoire, que la République centrafricaine ne vient pas de pouvoir, si vous voulez, créer une relation diplomatique avec la Russie. La Russie est là depuis 1960. L'ambassadeur Kasparov a quitté en 2011. Il a été remplacé par l'ambassadeur Labanov, qui est resté là de 2011 à maintenant, alors qu'il y a 4 ambassadeurs de la France, de la Russie, qui sont partis. Donc, c'est pour vous dire que ça existe. Mais ce que nous disons, et je bondis sur ce que le président Ziguele dit, pas pour l'interpeller, mais pour attirer aussi son attention. La saisine de l'Assemblée, en tant que député, il incombe aux députés de pouvoir se saisir des préoccupations du peuple et de pouvoir certainement demander au gouvernement de clarifier un certain nombre de choses. Parce que c'est simplement quelques attitudes. Vous voyez, quand on vient, nous qui connaissons un peu les Russes, le président Ziguele se connaît parce que nous sommes de gauche, nous qui connaissons un peu les Russes, quand ils arrivent, ils sont très agités. Quand ils vont vers le Soudan, ils vont à Bria, comme c'est des zones de ressources naturelles, automatiquement il y a les interprétations. Et en même temps, il y a certains qui commencent déjà, quelques oligarques, et on connaît le président Poutine. Le président Poutine ne va pas sans penser à, vous savez, le gaz et tout ça, c'est le président lui-même. Donc, les gens automatiquement interprétés. Il incombe maintenant, moi je pense, à l'Assemblée de se saisir de cette préoccupation, demander simplement au gouvernement clarifier. Parce que de toutes les façons, s'il y avait une convention, vous aurez dû déférer ça à l'Assemblée. Mais en ne le faisant pas, en n'expliquant pas, certainement ça laisse le champ libre à des supputations.
Tout à fait.
Et pourtant, ce que nous savons, et que moi je sais, un peu de nos contacts, mais vraiment directs avec les autorités françaises, ils disent qu'ils ne voient pas d'inconvénient. Puisque eux-mêmes ont donné leur accord au Conseil de sécurité. Il y a la France, les États-Unis, qui ont donné leur accord à la demande faite par la Russie pour vendre les armes à la République centrafricaine.
Peut-être qu'il y a plus de tout ce mouvement.
Donc il faut dissiper les choses, je
justement,
pense.
Justement, à travers c'est aussi l'occasion pour
je voudrais
J'espère
dire.
Que le Parlement entend ce message.
Mais monsieur le ministre, je voudrais vous rassurer.
C'est ça.
Vous savez, je venais de dire tout à l'heure que nous avons fait un séminaire avec la Banque mondiale.
OK.
Qui nous a pris 3 jours d'horloge, hein, 3 jours, pendant 3 jours. Et nous avons convenu à la fin de ce séminaire de rehausser le niveau d'exigence sur le plan méthodologique, c'est-à-dire sur le plan la documentation, des exigences du code minier, etc. et de la procédure, de la manière. C'est vrai que la Cour constitutionnelle a rappelé que c'est le bureau de l'Assemblée qui doit donner l'autorisation, et dans le bureau de l'Assemblée, ce n'est pas tous les députés, vous le savez. Mais on a convenu qu'on va impliquer la commission production qui s'occupe des ressources naturelles et la commission économie-finance que je préside dans une commission mixte qui étudiera les dossiers en aval. Et nous sommes, même avec l'assistance de la Banque mondiale, nous avons même convenu d'une checklist qui permet de vérifier que l'ensemble de la documentation existe. Ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que depuis mai 2016, où nous sommes à l'Assemblée, nous avons déjà reçu une dizaine de conventions. Quand le gouvernement négocie une convention avec des investisseurs, elle l'envoie systématiquement à l'Assemblée. Et donc, il y en a eu dizaines qui ont déjà été signées. Elles sont publiées même sur le site du ministère des Mines ou des Finances, selon que c'est des conventions minières ou financières. Mais notre réaction en tant que député, c'est de dire, on nous dit qu'il y a eu des accords secrets. On nous dit, c'est ce que la presse dit, les journaux, Internet, on dit non. En plus de l'assistance militaire, il y a des accords secrets qui porteraient sur des ressources minières stratégiques. J'ai même lu ça.
Ouais.
Et donc, moi, je suis en train de dire, nous n'avons pas été saisis par de tels projets. Ça, je peux vous le confirmer. D'accord. Mais si d'aventure, ces projets-là existaient, ceux qui les dénoncent et qui donc les détiennent n'ont qu'à nous les donner.
Tout à fait.
Parce que nous ne les avons pas. Dès que nous les avons, je vous assure que l'Assemblée nationale va interpeller le gouvernement pour dire voilà le document que nous avons reçu, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais il faut qu'on nous les donne. Nous ne les avons pas.
Tout à fait. C'est ça. Donc, nous attendons donc de voir ces documents de manière physique pour
comme
pouvoir
agir. Comme dirait les chanteurs, c'est parole contre parole.
Justement. Voilà. Merci, Président Ziguele. Monsieur Gervais Lacosse, tout à l'heure, hein, vous avez dit que vous ne voyez rien d'extraordinaire dans cette coopération russe qui est en train de se réchauffer. Mais vous, comment vous entendez voir nos autorités gérer ce nouvel élan-là donné à cette coopération pour que les retombées soient bénéfiques à l'ensemble du peuple?
Vous savez, un adage dit que si vous savez là où vous allez, personne ne peut vous déjouer du droit chemin. Et si vous ne savez pas là où vous allez, n'importe qui peut vous amener n'importe où. Et c'est ça ce que nous craignons. Il faudrait que nos autorités soient sûres de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils veulent faire, de là où ils veulent aboutir. Et ce serait facile de coopérer avec qui que ce soit la Russie, l'Inde, la France ou la Chine. Mais l'impression que les gens ont, et c'est ce qui laisse libre cours aux rumeurs, aux fake news, c'est qu'on voit que n'importe qui débarque chez nous, même on annonce que la personne vient pour telle, telle chose, mais dans la réalité, on voit autre chose. Concernant la Russie, il était annoncé. On savait que c'était une coopération d'abord militaire. Ils étaient venus former les militaires au maniement des armes que nous ont fait don suite à un accord avec le Conseil de sécurité qui a levé partiellement l'embargo pour cela. Mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit? On les voit partout. On les voit partout. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y a des accords secrets.
Et pour vous, c'est source d'inquiétude?
Oh, que bien sûr que oui. C'est source d'inquiétude. Ça veut dire que finalement, cette coopération russe ne nous apportera rien d'extraordinaire puisqu'elle est sur le même chemin que ces autres coopérations qui sont là. Vous voyez bien que la République centrafricaine est inondée. Il y a tous les organismes du monde ici, il y a toutes les ONG internationales du monde ici, mais la crise centrafricaine ne fait que se complexifier chaque jour. Et ce n'est pas l'arrivée de la Russie, et beaucoup de gens commençaient déjà, vous avez vu que des gens ont déployé des drapeaux de la Russie un peu partout dans la ville de Bangui. Ça, c'est une simplicité d'esprit. Les gens comptent sur les autres pour régler leurs problèmes. Et malheureusement, les Russes sont là il y a quelques temps déjà.
Mais nos problèmes n'ont pas changé. Seulement la population pourrait juste tout petit peu prendre son mal en patience, attendre de voir là où cela pourrait nous amener.
Vous savez, comme la souffrance est là, on ne peut pas trop attendre. Il faut se mettre aussi du côté de la population. Nous vivons avec la souffrance tous les jours. C'est ce qui explique l'impatience des Centrafricains d'avoir la paix tout de suite. Et ce que nous voulons, c'est la paix. Parce que le peuple centrafricain sait se prendre en charge, sait s'auto-nourrir tout. Mais c'est parce qu'il n'y a pas la paix qu'on ne peut pas faire toutes ces choses. Depuis toujours, ce n'est pas les ONG humanitaires qui nourrissent le peuple centrafricain et qui soignent le peuple centrafricain. C'est parce que nous sommes dans la crise. Et c'est pour cela que nous sommes empressés de sortir de la crise. Ce qui explique même l'enthousiasme d'une bonne partie de la population quand on a annoncé que les militaires russes allaient venir ici. Bon, mais quand on est dans la souffrance, on rêve aussi de sortir. On a dit, oh, voilà, ils viennent, c'est fini. Et puis,
c'est la baguette magique.
Voilà, et ça dure. Et puis,
alors, est-ce qu'on peut voir la présence russe en Centrafrique sous cette œil-là comme une baguette magique un peu qui pourrait être, j'allais dire, la solution à la crise non seulement sécuritaire, mais aussi économique en Centrafrique? Président Ziguele.
Non, moi je pense qu'on mélange un peu les causes, les conséquences, les commentaires, les analyses, le sujet principal, le sujet accessoire. Non, nous devons remettre sur pied l'armée centrafricaine qui est sous embargo. D'accord?
Et ça, c'est de la responsabilité
de l'État centrafricain.
De l'État, bien sûr.
Les militaires centrafricains ont été formés, leurs propres formateurs disent qu'il leur faut des armes. L'État centrafricain a sollicité l'achat des armes auprès de sociétés françaises. L'État centrafricain n'a pas reçu en retour l'autorisation au bout de 6 mois et s'est adressé aux plus hautes autorités françaises.
Oui, ça vous l'avez dit, donc, nous l'avons entendu.
Oui, mais parce que
là,
non, parce que c'est ça.
Il y a une préoccupation qui émane du peuple.
Non, non, parce qu'on ne peut pas commencer l'histoire au milieu. Parce que quand on commence l'histoire au milieu, on commente. Mais il faut revenir sur les faits. C'est pour ça que je dis, à l'occasion de l'arrivée des Russes dans le cadre de cette résolution des Nations Unies, le gouvernement a certainement estimé qu'il faut étendre cette coopération dans le domaine économique, dans le domaine scientifique, dans le domaine culturel, je ne sais pas quoi. Mais je suis en train de dire que c'est un problème de communication et c'est un problème d'information et c'est un problème de gestion de nos relations. Il faut expliquer tout simplement que nous avons sollicité ces pays-là pour qu'ils nous donnent des armes, ils ont donné des instructeurs et à cette occasion, nous avons demandé également que notre pays étant dans une situation économique difficile, nous avons des ressources à exploiter, nous avons des ressources à mettre en valeur. Voilà la procédure pour que nous puissions examiner avec vous des possibilités de coopération qui soient bénéfiques et à vous et à notre pays. C'est une question de présentation de la démarche de manière claire, transparente
et
à tout le monde.
Et peut-être que ce n'est pas un travail qui n'est pas assez fait par
les pouvoirs publics. Je suis en train de dire que vraiment, ce problème, je le regarde dans tous les angles. Je dis c'est juste un problème de communication. Exactement. Et de gestion diplomatique d'une débat. Mais la RCA, demain, on peut demander aux Brésiliens de venir nous aider s'ils sont d'accord. On peut demander, je ne sais pas moi, aux Indiens de venir nous aider. Mais le problème, c'est le principe de la démarche. Quelle est la démarche pour que l'ensemble des partenaires sachent que le traitement est égal, transparent, équitable vis-à-vis de tous. C'est bien de ça
avant,
qu'il s'agit.
Avant que le président Kondane réagisse, hein, il y a.
Ce qui m'étonne dans les propos du président Zigele, c'est comme s'il était de l'opposition.
Non.
Et pourtant, vous qui êtes allié. Vous avez une coloration politique, vous êtes allié du président Kabila dans la gestion du pouvoir. Et il fallait lui donner ces conseils-là.
Mais qui vous dit que je ne lui ai pas donné ça?
Je n'ai pas besoin de venir vous dire à la radio que j'ai donné des conseils, même à vous qui êtes mon cadet.
Si je vous donne des conseils, je ne viendrai pas à la radio.
Naturellement.
Dire que j'ai donné des conseils.
Mais non, mais je dis ça pourquoi? J'explique. Non, j'ai la parole, monsieur le président. Je dis ça parce que justement, ce que vous avez dit, c'est ce que le peuple attend. On ne nous a pas assez expliqué ce qui s'est passé. Si je vous ai lancé cette pique-là, c'est parce que vous êtes de l'autre côté, mais vous vous pliez aussi comme si vous êtes de la population.
Nous ne sommes pas de même côté,
monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois. Nous ne sommes pas de même côté.
Merci.
Justement, c'est ce qui pose problème. Et je pense aussi que c'est utile. Ce n'est pas parce qu'on est dans la crise qu'on ne peut pas développer la coopération économique et tout ça, mais il devrait avoir une prioritisation de ces coopérations, de ces actions. Qu'est-ce qui devrait venir avant? Et la Russie, d'abord, ce qui nous intéresse chez eux, comme partout, d'abord en République centrafricaine, au jour d'aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est la sécurisation, c'est la remise en selle de notre armée. Donc, pour moi, ça veut dire que embrasser plusieurs choses à la fois amène la complexité et puis affaiblit l'action qu'on veut poser. Et peut-être c'est ça qui fait que on ne comprend pas beaucoup.
Peut-être que le gouvernement a son plan que nous ne maîtrisons pas encore.
Alors, si c'est pour nous devons le maîtriser, nous devons le comprendre pour soutenir justement.
Alors, président Cyril Gonda, d'aucuns disent que la montée de l'influence russe, alliée aux intérêts de la Chine, met à mal les efforts non seulement des casques bleus des Nations Unies, mais aussi de la France pour pacifier ce pays. Est-ce aussi votre avis?
Merci. Avant de répondre à cette question de manière très brève d'ailleurs, je voudrais repréciser. C'est ce que je disais tout à l'heure et le président Zigile l'a si bien schématisé. J'ai répété, à un moment donné, quand la population s'inquiète pour un manque d'informations, il incombe à ses représentants de pouvoir se saisir de ces questions et demander à ce que, du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, le gouvernement vienne clarifier, expliquer simplement. Parce que, en fait, vous savez, tout le monde le sait, le président Zigele, la COSO, moi-même, vous-même, nous savons que quand on est dans une situation de crise, on peut résoudre militairement, il faut résoudre aussi diplomatiquement, il faut résoudre politiquement et maintenant économiquement. Dans cette situation où nous sommes, moi j'ai écouté le président Touadéra. Il est intervenu sur France 24. Voici ce qu'il a dit à votre confrère journaliste. Écoutez, je suis parti à Sochi, on a discuté et nous avons décidé de relancer la coopération russo-centrafricaine. Ça a commencé par les armements, mais nous avons décidé d'élargir notre coopération parce que la République centrafricaine a des potentialités à partir de là. Simplement expliquer. Aujourd'hui, tous les centrafricains savent que les Indiens sont ici pour le ciment. Ils distinguent les Indiens de la cimenterie là-bas et des Indiens de la MINUSCA parce qu'on leur a expliqué. Voilà, les Indiens étaient venus pour le machin. Donc, simplement une gestion diplomatique. La gestion diplomatique, les relations, ce qu'on les gens disent, c'est pas facile que le peuple comprenne. Parce qu'il y a tout le concept, le langage, etc. Donc, il incombe au gouvernement de dire, écoutez, en octobre, on a accepté de faire des aménagements sur l'embargo. La Russie a accepté de nous donner des armes. Maintenant, c'est un pays, un grand pays. Nous avons des potentialités, nous avons des vieilles relations. Nous avons pensé les élargir dans le domaine économique, culturel, scientifique, etc. Et voilà ce que... Le jour où il y aura des intentions sur les ressources minières, etc., ça va suivre la procédure. Ça passera devant l'Assemblée nationale. Mais les voyages qui ont été faits à Boromata, les voyages qui ont été faits à Bria, ont été pour telle raison.
Alors, justement, je reste avec vous par rapport à ma question précédente aujourd'hui. Voilà. La Russie et la Chine se croisent sur un entre-grève précaré français.
J'ai dit que je serai très bref. Oui, oui. Voilà une autre personnalité française encore qui dit ceci. Qui dit, quand le président Macron partait à Saint-Pétersbourg, il avait dans son avion 40 entrepreneurs, le vice-président de l'Assemblée nationale, et les quatre présidents des commissions. 40 entrepreneurs. Ah. Il me redit la même chose. Quand le président Sarkozy et Hollande partaient en Chine, ils avaient Anne Levergent dans leur avion et tout le monde pour aller prendre le machin. Ah. Donc, eux, ils n'ont pas d'état d'âme à aller trouver des opportunités en Chine et en Russie. Donc, le grand problème, c'est que ici, chacun doit rester dans... Comme on le dit, dans son carreau, pas dans son carré, dans son carreau. Donc je pense que l'autre l'a si bien dit hier, Le Drian l'a si bien dit hier, nous avons été avec le ministre Sergueï Lavrov, nous leur avons rappelé nos engagements sur le plan électoral, politique, institutionnel, ça veut dire ce que ça veut dire. Écoutez, nous avons fait un cadrage, il ne faut pas venir tout chambouler parce que la population pense aujourd'hui. Ils disent en sango, mais Arus Nisou, depuis Agasso, 5 kilos, Mbagi Tonso. C'est-à-dire, c'est une mauvaise compréhension de la chose. Ils pensent que les Russes, en allant au kilomètre 5, peuvent désarmer. Mais ça, c'est aux gouvernants qui sont dans l'action de le faire. Et les autres qui sont dans la critique ou la population qui est dans le questionnement resteront dans le questionnement.
Merci, président Siragonda, président Martin Ziguelo. Depuis que la présence militaire russe s'est installée à Birengo, aussitôt tous les citoyens centrafricains, je l'avais dit tout à l'heure, on pose tout de suite le parallélisme France-Russie. Y a-t-il aujourd'hui un risque que cela puisse refroidir les partenaires traditionnels de ce pays, j'entends la France, qui verraient peut-être leurs intérêts inquiétés à travers cette présence?
Non, je pense que la réponse a déjà été dite aussi bien par Lacoste lui-même que par le ministre de Tagona. Nous sommes dans une ère de mondialisation. Nous sommes dans une ère de mondialisation et nous sommes ouverts à la coopération avec tous les pays du monde sans distinction. Et le seul point qui doit faire bouger notre diplomatie, c'est de veiller aux intérêts mutuels de ces partenaires-là. Je répète ce que j'ai dit, je répète toujours ce que j'ai dit. La première responsabilité d'un gouvernement, c'est de communiquer et d'expliquer à sa population.
Exact.
Au nom de qui il détient l'impérium, l'exercice du pouvoir.
Exact.
Il doit expliquer. Tout est explicable et tout doit être expliqué pour que l'opinion nationale sache que ce que le gouvernement est en train de faire, c'est la recherche des voies et moyens pour résoudre plusieurs problèmes à la fois. Premièrement, la sécurité, comme l'a dit Lacoste. Deuxièmement, les problèmes économiques. Troisièmement, les problèmes sociaux, etc. etc. Donc, je pense qu'il n'y a pas à s'affoler par rapport à cette question. Moi, je ne vois pas du tout les problèmes de la même manière. Je ne sais pas, je dis que nous sommes en relation avec la Russie depuis 1960. Nous avons une diplomatie. S'il y a des partenaires qui sont inquiets sur des points précis, c'est à notre diplomatie de les rencontrer. Et entre amis, on met les sujets qui fâchent sur la table et on en parle. Qu'est-ce qui inquiète nos partenaires? S'il y a des motifs sérieux et sincères d'inquiétude, ils vont examiner ça avec les responsables de la diplomatie de l'État centrafricain. C'est pour ça que la diplomatie existe depuis Talleyrand. Donc, moi, mon inquiétude, c'est que en mettant sur le champ médiatique un ensemble de déclarations, un ensemble de petits mots, un ensemble de commentaires, on est en train de construire dans l'opinion que la RCA aurait choisi la Russie au détriment de ses alliances traditionnelles ou des pays qui le soutiennent dans le cadre du Conseil de sécurité. Je ne peux pas accepter une telle déformation. Si nous avons la MINUSCA, c'est parce que les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir les États-Unis, la Russie, la Chine, le Royaume-Uni et la France, n'ont pas opposé de veto. Si nous avons aujourd'hui des relations avec le FMI et nous sommes à la quatrième revue, c'est parce qu'il y a eu le soutien de ces pays. Mmh. Si nous avons aujourd'hui ici en Centrafrique la Banque mondiale comme premier bailleur de fonds et qu'ils ont doublé leurs opérations par rapport à ce qui se passait il y a 10 ans, 15 ans, c'est parce qu'il y a l'action de ces pays-là. Si l'Union européenne nous aide pour la formation de l'EITM, c'est parce que les pays européens sont d'accord pour nous aider. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons des amis. Nous avons des amis, ils sont nombreux. Mmh. Et c'est à nous de veiller à ce que s'ils montrent des signes d'inquiétude, il faut qu'on les appelle. C'est pour ça que moi, je pense que tout est discutable. Mmh. La seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est quand quelqu'un est mort. On ne peut pas le ressusciter. Mais quel que soit le problème, je pense que la diplomatie, c'est justement... Je parle sous le contrôle du ministre d'État Gonda qui a travaillé aux Nations Unies. Ouais. Mais si les Nations Unies existent, c'est pour résoudre des problèmes compliqués. Justement, la diplomatie est là pour ça. Donc je pense qu'il ne faut pas rendre... Vous savez, notre pays est très fragile et l'opinion est très volatile et très sensible. Alors donc si on essaie de tenir ce discours-là, c'est comme s'il y avait un problème grave et que ça va exploser demain matin parce que nous sommes en train de mettre à bras le bas nos alliances.
Je rappelle tout simplement qu'il y a eu quand même un malaise dans le milieu diplomatique lorsqu'il y a eu cette cérémonie de sortie des premiers éléments, les militaires formés au camp de Birongo et qu'ils n'ont pas été associés à la cérémonie.
Sans vous couper, je voulais dire, en fait, en résumé, vous savez, le Conseil de sécurité, son fonctionnement, c'est des grands enjeux qui sont loin, qui sont discutés, et vous pensez que c'est le problème de l'heure qui est discuté, mais en fait, c'est des grands enjeux qui concerne les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité. En dehors des 15 autres, la présidence c'est le Gabon, la présidence c'est la Libye. Ça ne change pas vraiment. Alors en fait, le fait pour la Russie d'être en République centrafricaine, le fait que la Russie soit là avec la fourniture des armes, c'est avec l'accord de la France, comme je l'ai dit, de tous les pays membres permanents du Conseil de sécurité. C'est pas ça qui fâche. Maintenant, c'est la gestion quotidienne de ces relations ici.
Si, justement.
C'est pourquoi la diplomatie existe. C'est la gestion quotidienne de ces relations ici. La diplomatie centrafricaine doit permanentement faire des clarifications. Mmh. Et quand les clarifications sont faites, la communication est faite à la population pour que la population adhère à ce qui est fait. Parce que pour la population, les gouvernants, ceux qui sont dans l'action, ont l'obligation de lui faire comprendre que permanentement, tout ce que nous faisons, c'est pour améliorer les conditions de vie de vous autres, nos populations. Mmh. À partir de ce moment, il y a des petits couacs diplomatiques qui peuvent arriver, comme ce qui s'est passé.
Bien sûr.
Maintenant, il faut assurer, comme je l'ai toujours dit dans mon langage politique, assurer la fermeté. C'est-à-dire, quand le ministre de la Communication dit non, c'était une erreur du protocole d'État, le porte-parole à la présidence dit non, chacun peut inviter celui qu'il veut.
Voilà, ça c'est une erreur.
Ça c'est une erreur. Et c'est ça, la population ne comprend pas. Justement, à partir de ce moment, donc, nous les exhortons à pouvoir, quand il y a des questions, expliquer simplement.
Voilà. Tout à fait. Voilà. Merci, M. Siragunda. M. Gervais Lakoso, aujourd'hui, on voit que voilà, le problème de la communication reste un problème fondamental. Hein. Tout le monde l'a évoqué, nous sommes tous d'accord là-dessus. Tout à l'heure, le président Ziguele s'inquiétait du fait que voilà, n'importe quel média se lève aujourd'hui pour placer des petits mots, et c'est ce qui crée aujourd'hui la zizanie. Nous avons également... Non, pas des quelques... Nous avons lu quand même dans la presse occidentale que voilà, le ministre français des Affaires étrangères, Le Drian, n'est pas content de la présence militaire russe en Centrafrique. Mais quelle lecture faites-vous de tout ces tapages faits par les médias, surtout occidentaux, autour de cette présence russe en RC? Est-ce un simple fait du hasard, comme on le dit?
Non, rien ne se fait au hasard dans les relations international. Et c'est nous en Centrafrique qui pensons qu'un pays se gère comme ça. Un pays ne se gère pas au hasard. Normalement, toutes les entités d'un pays devraient contribuer à l'essor de ce pays. C'est ce que les médias occidentaux font. Et c'est ce qui ne se fait pas comme il se doit ici chez nous. Comme vous voyez, par exemple, c'est qui a mis les médias occidentaux ou bien même notre partenaire, la France, sur ses gardes. C'est la manière avec laquelle on a inondé surtout les réseaux sociaux et essentiellement par les partisans du président Touadéra. Je voudrais même dire que c'est eux qui ne lui ont pas rendu service dans cette démarche qu'il est en train de mener pour essayer de résoudre le problème centrafricain. On en a trop parlé sur les réseaux sociaux qui ne sont pas considérés comme un média sérieux, parce que ce n'est pas une source d'information fiable. Et ça a mis les autres sur leur garde, ils disent « Ah, quelque chose se passe ici ». Et puis, moi, un jour, dans une conférence, j'ai répondu à un jeune qui me dit « Mais la France dit qu'elle n'a pas d'intérêt, elle n'a que des amis ». Je lui dis « Bien sûr que la France a raison. Il appartient aussi à la République centrafricaine de veiller sur ses intérêts. Ce n'est pas parce que, vous savez, quelqu'un a dit qu'un État peut mourir. Moi, j'ai dit que non, un État ne meurt jamais.
Un État ne meurt jamais.
Et un État peut tomber dans la faiblesse, peut tomber dans une situation complexe, mais ça dépend des hommes qui arrivent à la tête de cet État. Ils peuvent donner une autre direction à cet État et améliorer, même en étant record, les choses. Et c'est ce que nous, les Centrafricains, nous demandons aujourd'hui. C'est ce que nous revendiquons, nous réclamons de la part de nos autorités, qu'ils inventent ce qui peut nous sortir de cette situation. Moi, je reste convaincu que la coopération avec qui que ce soit ne sera pas la solution véritable. La solution véritable, c'est ce que nous, on veut. Qu'est-ce qu'on décide? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui est organisée, qui est initiée par les amis de la République centrafricaine avec leur générosité envers nous. Mais ça ne nous a pas tiré de la crise. Nous sommes là dans la crise. La crise se complexifie chaque jour. Et je pense que la crise là nous attend, nous les Centrafricains, pour qu'elle s'arrête. Elle nous attend et surtout dans l'ordre de responsabilité. En commençant par ceux qui dirigent le pays, ceux à qui les autres ont confié leur destin. Il faut qu'ils soient créatifs, il faut qu'ils prennent les choses en main. Parce qu'en faisant trop confiance aux autres, en attendant que les solutions viennent d'ailleurs, on peut rester dans l'attentisme et la solution ne viendra jamais puisque les autres l'orienteront tout le temps que vers leur intérêt à eux.
Merci, M. Gervais Lakosso. Président Martin Ziegler, aujourd'hui, hein, comme on arrête de le lire dans les médias, les analyses des uns et des autres, d'aucuns disent que la RCA est désormais la porte d'entrée de la Russie en Afrique. C'est dire que la présence russe en Centrafrique, c'est au-delà de ce que nous prétendons le croire et que voilà, c'est enfin, les choses sont au-delà.
Moi, je vais vous dire une chose très simple. Il ne faut pas s'affoler. Il ne faut pas s'affoler. Il faut que chacun fasse son travail. L'exécutif, qui est en charge de la politique extérieure de la RCA par la voie de la diplomatie, doit rencontrer aussi bien Le Drian que d'autres partenaires, conférence des ambassadeurs, réunion avec les ambassadeurs, pour demander quelles sont vos inquiétudes, les examiner et vérifier si les faits sont fondés, si les appréhensions sont fondées. Et puis essayer de donner une réponse à cela. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'affoler. Maintenant, lorsqu'on verra que la coopération qui existe entre la RCA et l'ensemble de la communauté internationale, dont les pays membres permanents du Conseil de sécurité, continue normalement, ces différents intervenants sur les réseaux sociaux, etc., baisseront la garde. Mais c'est le silence ou, si vous voulez, la communication qui n'est pas complète et parfaite qui fait que les gens rebondissent. Enfin, ils trouvent, comme, excusez-moi l'expression, ça leur donne du grain à moudre. Mais je vais revenir sur quelque chose. Je tiens toujours le même discours. Il n'existe pas sur cette terre quelqu'un qui est en sécurité lorsqu'il n'a pas pris des dispositions à son propre niveau pour assurer sa propre sécurité et la protection de ses biens. C'est pour ça que depuis le départ, je compare toujours le Mali à la RCA. Le Mali a vécu ce que nous avons vécu un an avant nous, quand les djihadistes cherchaient à descendre sur Bamako. On a dit tout ce que vous savez sur l'armée malienne. La même Union européenne avec l'EUTM, en une année, a reformaté l'ensemble de l'armée malienne, qui tourne autour de 20 000 hommes. En Centrafrique, nous avons manqué de vigilance politique. Il faut le reconnaître. Ce n'est pas extraordinaire. Lorsque nous allions vers la fin de la transition, et que nous avons signé les accords avec l'Union européenne et l'EUTM, on nous a dit, on va vous former deux bataillons par an. Nous avons dit oui.
Mais vous savez ce peut-être que parce deux bataillons par an
parce que, peut-être parce que le contexte à l'époque s'y prêtait.
Mais non.
Mais les groupes armés étaient là. On a manqué de vigilance politique, Yves. C'est pas
bien
un problème
que vous
de
le reconnaître.
Et donc, je dis que l'accord qui a été fait avec l'EUTM, merci pour le travail qu'ils ont fait, mais il faut le rediscuter, il faut le renégocier. Et là encore, c'est le travail de la diplomatie. C'est l'ensemble de l'armée centrafricaine qu'il faut reconnaître en un an. Et je le dis toujours, ce que nous vivons aujourd'hui à Bangui, à Bambari, ressemble plus à des problèmes de maintien de l'ordre que des opérations de guerre. Et nous avons moins de 2000 policiers, moins de 2000 gendarmes pour un pays qui est aussi grand que la France, la Belgique et le Luxembourg réunis. Alors qu'un simple match de football au Stade de France à Paris, il y a 2000 policiers et 2000 gendarmes qui sont mobilisés. Mais comment on peut arriver à la sécurité si nous n'avons pas nous-mêmes déjà notre chien qui est en état de surveiller la concession?
Autrement dit, aujourd'hui, c'est quand même une erreur de penser qu'on peut plus fonder notre espoir sur les Russes.
Mais quand on parlait de l'opération de Faka, qu'est-ce qu'on nous disait? On nous disait qu'on était des rêveurs, qu'il ne fallait surtout pas de Faka sur le terrain. On était pris même comme de fous. Mais aujourd'hui, les mêmes personnes disent que non, pour faire les opérations, il faut qu'on y aille avec les Faka. Mais on a perdu 2 ans. Ces 2 ans-là, il faut qu'on les rattrape. On les rattrapera comment? En reformatant l'ensemble de l'armée au même moment, en recrutant des milliers de jeunes dans la police de la gendarmerie pour que dans chaque périmètre de notre territoire, il y ait la présence de forces de l'ordre. Et ça, je le dis encore une énième fois, c'est un problème de gestion de notre diplomatie.
Pas seulement de notre
diplomatie. Je ne veux pas monopoliser la parole. Vous voyez nos parents qui étaient des paysans. Quand ils vont au champ, il fait chaud, il y a le soleil. S'il dit, j'attends que l'ombre arrive pour cultiver, il cultive la nuit. Non, il ne peut pas cultiver la nuit. Et il cultive sous le soleil et c'est ça qui donne la production. Donc, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que parce que les gens nous disent « Non, 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 vous n'avez pas le droit à ça. Non, vous ne faites pas ce que nous allons dire. Bon, comme les gens ont dit que nous ne pouvons pas faire ça, bon, mais on va continuer à pleurer. » Non, il faut discuter. Et c'est ça la diplomatie. C'est ça que je parle sous le contrôle du ministre d'État. Je ne sais pas si je raconte...
Justement, merci, Président Martin Sigile, Monsieur le ministre Siragonda. Oui, nous allons... C'est le dernier tour de table. Nous allons finir.
En fait, vous avez écouté la Kosodi, la même chose d'une autre manière que le président Zigueré. Ils ont dit la même chose. On ne peut pas prendre son destin et confier au voisin ou à l'autre pour le gérer. Ici, autour de cette table, je pense que j'ai participé à une dizaine de débats où le représentant de la MINUSCA et des machins que je ne voulais pas dire. Non, on ne peut pas... Les FACA, non, les FACA appartiennent. Ça, c'est les gars du MLPC. Ça, c'est les gars de Bosé. Ça, c'est les gars de ceci. Tout le temps. Vous savez, moi, je ne passe pas par le dos de la cuillère. Mais en fait, il faut reformater l'armée. Une fois ici, mon dernier débat, je vous expliquais que le UTM formait les FACA avec des morceaux de bois. D'accord ? Ici, devant le marché. Et j'ai dit que ce n'est pas possible. Deuxièmement, un bataillon, c'est 650 personnes, 600. Maintenant, on en a 1300. Le président Zigueré vous a expliqué que le Mali a reformaté son armée, 20 000, 27 000 hommes en un an. Maintenant, les stratèges militaires savent que pour mettre 5 000 hommes sur le terrain, il faut que 5 000 soient encore en réserve. Parce que vous avez la rotation, vous avez les blessés, vous avez tout ça. Nous avons tous manqué de courage aussi. C'est ce qui se passe jusqu'à aujourd'hui. Quand on sait qu'on a un accord de siège qui n'est pas un accord bien négocié avec la MINUSCA, mais on remet sur la table, on prend le courage de le faire. Et c'est
vous,
ça
vous pensez que nous n'avons pas encore ce courage-là?
Non, on doit avoir le courage de rediscuter les choses. On doit avoir le courage de vite clarifier. On sait que notre partenaire historique, il y a la France. La France, contrairement à ce qu'une autre personnalité disait, l'ambassade de la Russie n'est pas la plus grande. L'ambassade la plus grande ici, c'est l'ambassade de la France. Parce que l'Alliance française, c'est l'ambassade. Lycée Charles de Gaulle, c'est l'ambassade. L'AFD, c'est l'ambassade. Tout ça, c'est l'ambassade. Mais à partir de ce moment, on sait qu'il y a des inquiétudes. On clarifie. Nos amis étaient là avec le Sangaris. Mais il a fallu commencer. Maintenant, les autres viennent pour amener les armes. Clarifions, mettons-les sous le même pied. Expliquons que non, voilà comment ça doit se passer et avançons. Mais avec la priorité, notre armée, l'autorité de l'État et puis les aspects économiques pour relever le pays. Mais si on refuse continuellement, on veut faire la politique de l'autruche, l'attitude de l'autruche, fourrer notre tête dans du sable. On n'a rien vu. C'est la population qui parle. Exactement comme le président Zigueré dit, on est en train de créer, si vous voulez, ce que j'appelle zone noire dans un pays en crise. Et ça, c'est dangereux.
C'est très dangereux. Voilà. Merci, président Siragonda. Nous terminons avec vous, M. Gervais Lakosso. Aujourd'hui, vous pensez que nous avons le leadership qu'il faut au sein de notre gouvernement pour pouvoir voilà, porter haut ce défi-là.
Je vous regarde parce que et vous, M. le président Ziguele et M. le président Siragonda, vous avez déjà répondu à cette question. Et ça m'amuse un peu parce que c'est aujourd'hui que les politiques le disent, alors que c'est depuis très longtemps que la société civile le dit. Et lorsqu'on le disait, on nous prenait pour des fous. On a même fait la prison pour ça, pour avoir pensé qu'il ne faut pas faire confiance aux autres. C'est la politique qui dirige le pays. qu'il faut faire confiance en nous-mêmes. Je pense qu'il faut que j'utilise le terme compatriote, parce que ce sont nos compatriotes qui dirigent le pays, ceux qui sont aux affaires, arrêtent de prendre les critiques pour de l'animosité ou pour de l'inimitié. Non. On dit les choses, c'est parce que ça ne va pas. On les invite, on insiste pour qu'ils rectifient les choses, parce qu'ils ont notre destin entre leurs mains. Nous leur avions confier ça à travers les élections que tout le monde a acceptées. Il faut qu'ils s'assument. Et si aujourd'hui, autour de la table, des hommes politiques qui sont des alliés de pouvoir reconnaissent que la démarche n'est pas la bonne, mais il faudrait avoir le courage de rectifier. On négocie mal les choses. Parce que la France, les Nations Unies ont les mêmes relations avec tous les autres pays du monde. Mais pourquoi les choses se passent mieux ailleurs ? Et que chez nous, il y a toujours des mauvaises décisions, il n'y a toujours que des décisions en défaveur de la République centrafricaine. Et à l'époque, pendant la transition, quand nous disions que le programme de l'EUTM n'est pas la solution parce que vraiment c'est très lent, même les dirigeants de l'époque centrafricains nous disaient qu'on était des fous, les gens viennent nous aider et puis vous dites que ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, voilà encore des hautes autorités du pays qui disent que ce qui a été fait au Mali en un an, c'est parce que s'il faut suivre le rythme de l'EITM, il faut peut-être 20 ans pour reformater toute l'armée centrafricaine. Mais alors que la chose qu'il faut structurer le plus rapidement possible, si aujourd'hui les groupes armés continuent de narguer le gouvernement, c'est parce qu'ils savent qu'en face d'eux, il n'y a rien. Il n'y a personne, parce qu'ils savent que le président Touadéra ne peut pas prendre des initiatives, envoyer ses militaires sur le terrain pour aller le tenir en respect. C'est pour ça qu'il continue de demander des choses vraiment insupportables.
Il faut équilibrer,
de défier l'autorité de l'État. Dans tous les pays du monde, c'est l'État seul qui doit détenir le recours à la violence et une violence légale pour rétablir l'ordre dans le pays. Alors aujourd'hui, en République centrafricaine, c'est l'inverse. Même si les autorités ont envie de rétablir l'ordre quelque part, ils ne peuvent pas. Et ça, il faut régler ce problème-là. On a comme l'impression que ça n'inquiète même pas les autorités, alors que ça inquiète le peuple à leur place. Il faut qu'ils se mettent sur la même longueur d'onde que la population et il faut qu'ils assument leurs responsabilités. C'est eux que nous avions élus. On n'a pas élu la Russie, on n'a pas élu la MINUSCA, on n'a pas élu la France.
En un mot, il n'y a pas d'ennemis de la République, il n'y a que des compatriotes.
Mais bien sûr, nous avons des points de vue différents, mais nous sommes dans le même bateau.
Non, en fait, nous n'avons pas de points de vue différents, on pense la même chose.
merci à vous, Monsieur le Président Martin Ziguele, merci à vous, Monsieur le Président Siragonda, merci Gervais Lakosso. Fin de ce débat Patara sur Radio Ndekeloka, qui, je le rappelle, a été consacré à l'offensive diplomatique de la présidence centrafricaine auprès de Moscou, qui fait couler tant d'encre au plan national qu'international. Merci à tous les auditeurs de rester à côté de leur poste pour nous suivre. Herman Ambona à la technique, Polyte Marbois à l'animation, vous donne rendez-vous samedi prochain pour une autre thématique.